vais vous inviter à venir vous rapprocher parce que ce matin, ça va être une étude participative. Je vais vous faire participer. Alors, rapprochez-vous. On va faire un rond ici, là, en avant. On va faire un petit rond. Puis, on fait ça un peu différent ce matin. Comme j'ai dit il y a quelques semaines, le conseil le Seigneur semblait nous indiquer que ça serait bon qu'on fasse participer les gens davantage le dimanche matin. Donc, on met ça en œuvre. On met ça en œuvre ce matin. Donc, on va faire un petit résumé de ce qu'on a vu à date. Alors, pour ceux qui nous visitent, c'est la première fois, nous sommes dans une série qui s'appelle l'Église, la famille de Dieu. L'Église, ce n'est pas la bâtisse, c'est nous, c'est sa famille. Et puis, qu'est-ce qu'on a vu à date? C'est le verset thème de la série. Hein? On va le dire ensemble encore une fois. « Ainsi donc, vous n'êtes plus des étrangers, nés des gens de passage, mais vous êtes des concitoyens des saints, membres de la famille de Dieu. » Wow! C'est tout qu'un statut, hein? Tout qu'un privilège de faire partie de la famille de Dieu. On a vu à date que l'Église est une famille dont Dieu, le Père, en est le fondateur, en est le fondement. Et que pour faire partie de cette famille-là, il faut être adopté par Dieu le Père. On a vu ça dans l'Épître aux Galates, que Dieu veut t'adopter, Dieu veut adopter les gens dans sa famille pour en faire partie. Ce n'est pas en signant un formulaire, c'est pas en disant « oui, je suis présent », c'est en devenant enfant de Dieu, à travers la repentance envers Dieu et la confiance en Jésus-Christ, qu'on devient enfant de Dieu, que Dieu nous adopte dans sa famille et que par la suite, on peut participer à une famille locale. Il y a la grande famille de Dieu qui regroupe tous les gens de tous les âges, de toutes les places sur la terre, qu'on appelle l'Église universelle. Mais l'Église locale en est une expression de cette famille-là. Visible, merci. Enfant adopté, non plus esclave, on a vu la différence entre être un esclave, assujetti à « fais ceci, fais pas cela », et ce que ça produit, c'est la mort, c'est l'esclavagisme. Mais quand tu es adopté, Dieu te libère, Jésus te libère de cet état-là et te donne une nouvelle identité. Tu jouis d'une nouvelle identité, une nouvelle liberté, une nouvelle intimité et un héritage auprès de Dieu ton Père. Et il te donne son esprit qui te permet de le servir par amour comme un enfant qui désire ressembler à son papa. Donc, ça a été comme la première section dans notre série sur l'Église, la famille de Dieu. On a regardé au fondement Dieu le Père, comment on fait partie de cette famille-là, de quelle façon on change d'identité, etc. Tout ça, c'est un peu la première section, et c'est important parce que c'est vraiment le fondement de tout ce qu'on va voir par la suite. Puis, la semaine passée, Robert il a fait vraiment un résumé merveilleux de ce que le Seigneur a fait dans cette Église ici depuis les 8 à 10 dernières années. Comment Dieu nous a conduits à repenser notre façon de voir l'Église, notre façon de vivre l'Église. Et dans ce résumé que Robert a fait, il a fait mention de notre alliance relationnelle. Dans tout ce processus-là, l'Église a adopté une alliance relationnelle. C'est quoi une alliance? C'est un engagement. Et il y a plusieurs points dans cette alliance-là, dans cet engagement-là, de comment on va se traiter. Comment on va interagir dans cette Église-là, interagir. Donc, Robert y a touché au premier élément la semaine passée, puis ce matin, ce qu'on va faire, on va approfondir cet élément-là. Donc, dans les prochaines semaines, on va considérer ça, là, de quoi sont empreintes les relations dans la famille de Dieu. Puis le premier élément, c'est l'accueil. Donc, c'est ce qu'on va voir. Puis dans tous les éléments qu'on va voir, accueil, amour, réconciliation, etc., tous ces éléments-là, Je veux que vous gardiez en tête deux éléments conducteurs. Deux éléments conducteurs. Le premier qui est fondamental, comment Dieu, mon Père, a-t-il agi envers moi? Premièrement. Ce qui devrait orienter ma façon de traiter les autres. Premièrement, comment Dieu y a agi envers moi. Il continue d'agir envers moi. Et deuxième principe qui, bien sûr, vient de la règle d'or de ce que Jésus a dit. Hein? Comment j'aimerais qu'on me traite, moi? Comment j'aimerais être traité, moi? Fait que Jésus a dit, faites ce que vous, aux autres ce que vous aimeriez qu'ils vous fassent. Hein? Donc, les gens, souvent, ils se trompent en citant Jésus. Ils disent, faites pas aux autres ce que vous aimeriez pas qu'on vous fasse. C'est pas ça que Jésus a dit. Jésus a dit, faites aux autres. Faites aux autres ce que vous aimeriez qu'ils vous fassent. Donc, quand on vire ça à l'envers, puis on dit, faites pas aux autres, c'est ce que les gens disent souvent. Faites pas aux autres ce que vous n'irez pas qu'ils vous fassent. Ça nous coupe de toute responsabilité. Ah, j'ai rien fait de mal, moi. J'ai pas fait de mal, moi. Regarde, il agit de mal envers moi. C'est pas ça que Jésus a dit. C'est proactif. Jésus a dit, faites aux autres ce que vous aimeriez qu'ils vous fassent. Donc, comment j'aimerais qu'on me traite, moi? Bien, ça implique que je vais agir de cette façon-là envers les autres, n'est-ce pas? Puis voici un beau verset dans Romains 15, 7, que l'apôtre Paul nous a laissé. Il dit, « Accueillez-vous donc les uns les autres, tout comme le Christ vous a accueillis pour la gloire de Dieu. » Donc, c'est ça, on parlait de comment Dieu agit envers moi. C'est ça, là. Paul dit, « Christ vous a accueillis. » Dans toute la section qu'on a vue, la première section sur l'Église, la famille de Dieu, on a vu que Dieu t'accueille. Dieu veut t'accueillir dans sa famille. Christ est allé à la croix pour toi. Il est allé payer pour tes péchés. Il est allé prendre sur lui le jugement qui te revenait pour pouvoir t'offrir la possibilité de devenir enfant de Dieu. C'est comme ça que Christ t'a accueilli. Puis ce matin, on va approfondir l'élément de comment Christ accueille, OK? Fait que, dans le fond, dans l'Évangile, dans la Bible, il y a comme deux significations du mot « accueil », OK? Et puis dans notre langue française aussi. Donc, le premier, c'est accueillir physiquement, comme accueillir chez soi. Hein? Si je t'accueille pour manger chez nous, pour venir prendre un repas, je t'accueille chez nous. C'est recevoir. L'autre, ça fait plutôt référence à accepter. Accueillir quelqu'un, accepter quelqu'un, prendre soin de quelqu'un, le recevoir dans ton cercle, si on veut, là, dans ton intimité, c'est plutôt personnel. Là, c'est cet aspect-là qu'on va surtout approfondir aujourd'hui. Okay? Fait que tout ça, ça sert d'introduction. Puis là, vous allez participer avec moi. On va aller voir dans Luc chapitre 15. Luc chapitre 15, l'Évangile de Luc chapitre 15, verset 1 à 15. Puis, dans l'intérêt du temps, ben, ce passage-là, je vais vous le lire dans la version sommaire. Je vais suivre avec moi. Luc chapitre 15, verset 1. Les collecteurs d'impôts, c'est ça que ça veut dire, les publicains dans certaines versions, les publicains, les collecteurs de peaux, les gens qui collectaient les impôts pour les Romains, et autres pécheurs notoires. Pourquoi autres pécheurs notoires? Parce que les collecteurs d'impôts, c'était considéré comme des pécheurs terribles. Ils travaillaient pour les Romains. Donc, c'était comme des traîtres pour le peuple juif, ça. Et puis, ils s'empochaient beaucoup, beaucoup d'argent. Ils abusaient de leur pouvoir. D'autres pécheurs notoires se pressaient tous autour de Jésus, avides d'écouter ses paroles. Les pharisiens, les spécialistes de la loi, les leaders religieux, s'en indignaient et disaient, « Cet individu, Jésus, fréquente les pécheurs notoires et sa table avec eux. » Alors Jésus leur répondit par cette parabole, « Si l'un de vous possède 100 brebis et que l'une d'elles vienne à se perdre, n'abandonnera-t-il pas les 99 autres au pâturage pour aller à la recherche de celle qui est perdue jusqu'à ce qu'il l'ait retrouvée? Et quand il l'a retrouvée, avec quelle joie il la charge sur ses épaules pour la ramener. Aussitôt rentré chez lui, il appelle ses amis et ses voisins et leur dit, « Venez partager ma joie, car j'ai retrouvé ma brebis qui était perdue. Je vous assure qu'il en est de même au ciel. » Il y aura plus de joie pour un seul pécheur qui change de vie ou qui se repent que pour 99 justes qui n'en ont pas besoin. On va s'arrêter là pour l'instant. Les autres paraboles, il y a trois paraboles dans ce passage. C'est la femme qui perd un morceau d'argent dans sa maison, une pièce d'argent, et qui va balayer toute la maison pour trouver cette pièce-là. Puis finalement, la dernière parabole, on connaît, c'est la parabole du fils prodigue, la parabole le fils qui demande l'héritage de son père, puis s'en va gaspiller tout ça, puis à la fin, le père, il guette son retour, hein, puis il est tout content quand il voit son fils revenir. Prions. Seigneur grand Dieu, souverain créateur du ciel et de la terre, de la mer et de tout ce qui s'y meut. Des lois invisibles et immuables qui régissent la nature. C'est devant toi, Seigneur, que nous sommes réunis ce matin, devant ta présence glorieuse. On veut s'humilier devant toi, Seigneur, et te demander de nous parler ce matin. Parle à nos cœurs. Viens te révéler à nous par ton esprit et ta parole. On veut t'accueillir comme on a chanté. T'accueillir. Frayer le chemin devant le roi de gloire. Qui est le roi de gloire? L'Éternel, le Seigneur des armées célestes. L'Éternel puissant dans les combats. Il est le roi de gloire. Jésus, roi des rois, Seigneur des seigneurs. Que le roi de gloire fasse son entrée dans nos cœurs ce matin. Béni soit celui qui vient au nom du Seigneur. Amen. Donc, qu'est-ce que les leaders religieux, là c'est là qu'on va ouvrir la discussion, là, OK? Puis, gênez-vous pas, c'est pas qu'il y a juste une seule réponse. Il y en a plein de réponses qui vont se recouper, puis on va faire le ménage là-dedans. Qu'est-ce que les leaders religieux reprochaient à Jésus? De se tenir avec les pécheurs. Effectivement. Mais pas n'importe quel pécheur, là. Des traîtres, les pires, là. Les pires qui travaillaient pour l'ennemi et puis qui s'empochaient, qui s'enrichissaient en faisant ça, là. C'est des escrocs. Les publicains, c'était les pires escrocs, là. Qui profitaient de leur position pour s'enrichir. Pourquoi c'était problématique pour ces leaders-là là, que Jésus fasse ça?
C'est comme s'ils s'associaient à eux autres.
Ils n'en faisaient pas de cas? C'est comme s'ils n'en faisaient pas de cas? Il aurait dû les critiquer, sûrement. Est-ce que les pharisiens, eux autres, ils se tenaient avec ces gens-là? Pourquoi pas? Ils se voyaient comme pieux, supérieurs, n'est-ce pas? Voilà. Selon leur raisonnement, qu'est-ce qui serait plutôt la bonne chose à faire? Les rejeter, se tenir très loin. De quelle façon Jésus répond-il aux pharisiens en employant quelle technique littéraire? Une parabole. C'est quoi une parabole? C'est une histoire que Jésus raconte, surtout dans la Bible là, qu'on voit. C'est surtout Jésus. Il y en a d'autres dans l'Ancien Testament, des paraboles, mais c'est surtout dans le Nouveau. Et c'est Jésus qui employait beaucoup, beaucoup cette technique-là d'enseignement. Donc, c'est une histoire que Jésus raconte. Et quand on regarde les paraboles, il y a toujours un point central de comparaison que Jésus veut faire. Okay? Des fois, les gens se perdent dans les détails des paraboles. Dans les détails. Il ne faut pas regarder les détails. Il faut regarder à quoi Jésus veut faire référence quand il raconte cette parabole-là. Il y a un point majeur, un point central de comparaison entre l'histoire qu'il va conter et la situation. Il va conter l'histoire pour éclairer la situation. Et il y a un point central dans chacune des paraboles. Dans certaines paraboles, il y a des points de comparaison secondaires, OK? Mais il ne faut pas se perdre dans ces détails-là. Comme moi, quand j'étais jeune, là, j'étudiais les paraboles. Qu'est-ce que ça veut dire, ça, là? Bon, la brebis est perdue. Bon, la brebis, puis tout. C'est quoi que ça veut dire, ça? Puis bon, non. OK? Fait qu'il y a un point de comparaison. C'est quoi le point de comparaison que Jésus fait ici entre l'histoire et la situation? Parce qu'il la raconte pour répondre. Okay? Ça aussi, c'est très important quand on vient pour interpréter les paraboles. Souvent, les gens vont oublier dans quel contexte Jésus a conté l'histoire. Pourquoi il a conté cette histoire-là? Dans quel contexte? Avec qui il conversait? Et c'était quoi l'enjeu? Okay? C'est toutes des choses importantes pour arriver à comprendre, à saisir le sens. Fait que des fois, Jésus, c'est envers ses disciples qu'il va conter une parabole. Là, c'est pas ça. C'est envers qui? Les pharisiens. Fait que les pharisiens, c'est quoi la situation encore? Ils s'indignent. Exact. Super. Et ils murmurent de ce que Jésus se tient avec ces gens-là, parce que selon eux, selon vos réponses, la meilleure chose, ça aurait été de se distancer. Hein? OK. Fait que là, Jésus raconte la parabole de la brebis perdue. C'est quoi le point central de cette histoire-là? Oui.
Et puis, effectivement, le Messie venait pour les Juifs.
Oui.
Les gens de mauvaise vie, c'est des gentils. Ils ne venaient pas pour eux autres. Donc, là, c'est des exclus.
OK, en partie. Mais un publicain, un collecteur d'impôts, c'est un Juif. C'est un Juif qui travaillait pour les Romains. Et les gens de mauvaise vie ici, on est à l'intérieur d'Israël. Fait que c'est probablement des Juifs aussi.
Mais moi, ma vision de ça, là, ça me fait penser aux fonctionnaires. Parce que un fonctionnaire, là,
ça fait
plus. Oui. Là, OK, bon, il a-tu rempli le formulaire assez vite?
Oui.
Tu fais telle chose. Mais là, il y a une différence entre remplir une liste, cocher une liste, t'as fait ou t'as pas fait, puis la réalité.
Mm-hmm. OK. OK.
Mais là, tu cherches, mais c'est quelque chose qui vient dans le tableau. C'est comme émotionnel un peu.
OK. OK. Il y a un aspect émotionnel, là. OK.
C'est comme plus abstrait.
OK. OK. Il y a un aspect émotionnel, là. C'est bon. C'est bon. Ça s'éclaircit.
Tu veux rentrer dans une case.
Oui.
Tu veux pas, t'es pas dans la case.
Fait que les gens de mauvaise vie, ils rentraient pas dans les cases. Des pharisiens, c'est ça?
Des cases, des bonnes personnes.
Oui, des cases, ils cochaient pas les cases.
Mais c'est quoi qui fait que quelqu'un est mauvais dans la vie?
Oui.
Avec toutes les circonstances. C'est la sorte d'affaire demain, là, quelque chose peut arriver, puis tu n'aurais pas le choix, tu sais.
OK. Là, c'est une bonne question, ça. Ça, c'est une très bonne question. Qu'est-ce qui fait que les pharisiens considéraient ces gens-là comme des gens mauvais? Est-ce que les pharisiens auraient dit qu'il y a juste eux qui sont pécheurs? Probablement que non. La Bible enseigne que nous sommes tous pécheurs. Même les pharisiens devaient faire des sacrifices. Qu'est-ce qui faisait qu'ils étaient considérés comme des gens pécheurs? OK. Et qu'ils les considéraient différents d'eux. Mais en fait, oui.
Parce qu'ils ne se conformaient pas
Ils ne se conformaient pas. Ils ne se conformaient pas.
Ils n'étaient
pas dans les normes. Est-ce que c'était juste de dire que ces gens-là étaient pécheurs? Oui. Puis quelqu'un qui est pécheur au point de profiter de son peuple pour servir un ennemi, puis s'enrichir en même temps, est-ce qu'on est d'accord pour dire que cette personne-là pratique le péché? Et c'est flagrant, là. C'est flagrant, là. C'est ouvert.
Mais il y a une chose aussi. Ça dépend de la suite des choses. Parce que là, le fait, tu sais, mettons là, qu'il y aurait une occupation de main au Canada, là, je ne sais pas moi par les Russes ou les Chinois.
Ouais.
Puis là, tu sais là, que si tu ne collabores pas, tu te tires une balle.
Oui, OK.
Mais là, mettons là, que tu collabores, là, tu as des avantages. Là, tu t'en sers, tu vas distribuer ça au monde autour de toi, tu t'en sers.
Oui. Je suis d'accord. C'est possible, mais ces gens-là ne faisaient pas ça, la majorité. Mais, oui, on pourrait faire une comparaison avec aujourd'hui. Ces collecteurs d'impôts-là, ces publicains-là, ce serait justement comme quelqu'un qui vendrait des informations privilégiées du Canada aux Russes ou aux Chinois pour s'enrichir, OK? Et qu'il ferait publiquement, parce que dans ce temps-là, c'était public, mais il était protégé par les Romains. Oui, Enan?
Les actes qu'il pose, est-ce qu'il peut se culpabiliser pour dire, bon, je suis un pécheur, par exemple, je donne un exemple clair. Ici, les pharisiens, les collecteurs d'impôts, eux, c'était leur activité, c'est-à-dire leur boulot, leur job,
ouais.
De collecter les impôts,
ouais.
Et puis embaucher une partie. Mais est-ce que ces personnes, ils étaient conscients qu'ils commettaient un péché?
Ah, c'est une bonne question. C'est une bonne question, mais...
C'est comme le soldat.
Oui, mais...
Dans la Bible, les Écritures, il ne faut pas commettre un meurtre, mais le soldat sur le champ de combat,
ouais.
Tisse l'ennemi.
Oui.
Bon, s'il n'est pas chrétien,
mm-hmm.
Lui, dans sa conscience, normalement, il doit tirer sur l'ennemi.
C'est ça.
Le chrétien, on sait que quelqu'un qui commet quelque chose, il doit bien faut partir vers lui, le ramener à la raison. Bon.
C'est ça. Bien, c'est une bonne question, hein, Ilan. Mais je pense qu'en général, ces gens-là savaient que ce qu'ils faisaient était mal parce que les leaders religieux, justement, les tenaient à bout de bras. Et ils prêchaient contre eux. Pardon? Ils étaient pointés du doigt.
Là, c'est moi qui pointe.
OK. Mais là, on va revenir à la parabole. OK? Donc, on a des gens qui sont pécheurs, qui sont reconnus comme pécheurs. Ça ne veut pas dire qu'il n'y a pas d'autres pécheurs ailleurs, mais ces gens-là sont pointés du doigt. Et les pharisiens disent, Jésus, il devrait pas s'associer à ces gens-là. Il ne devrait pas se tenir avec ces gens-là. Et la réponse que Jésus donne, c'est la parabole qu'il raconte. Donc, dans la parabole, c'est quoi la situation? C'est quoi la situation dans la parabole?
Il y a une brebis perdue.
Cette brebis-là s'est éloignée du troupeau, exact. Il y a 99 brebis là, mais il y a une brebis qui est perdue. Et ça, c'est la situation. Et qu'est-ce que le berger fait? Il part à la recherche de la brebis perdue. Dans les trois choses, les trois histoires que Jésus va raconter, il y a une chose perdue. Une brebis, une pièce d'argent, puis un fils. OK? Et dans les trois, c'est la réjouissance de trouver la chose perdue. D'accord? Et Jésus, donc, fait un parallèle entre qui est qui, là? Le berger, c'est qui? C'est Jésus, c'est facile. Ça, c'est facile. La brebis perdue, c'est qui? C'est les pécheurs notoires, les pécheurs reconnus, là. C'est ces gens-là, OK? Fait que, selon la pensée des pharisiens, Jésus ne devrait pas s'associer à ces gens-là parce qu'ils sont publiquement en train de faire fi des lois, des principes de Dieu. Mais Jésus, lui, il répond avec l'histoire de la brebis perdue et le berger qui s'en va chercher la brebis. OK? Donc, qu'est-ce que les actions du berger dans l'histoire de Jésus nous démontrent sur sa façon de voir la brebis perdue? Elle est précieuse. Exactement. Pourquoi? Parce qu'il laisse les 99 autres pour aller loin chercher la brebis et la ramener. Et quand il la ramène, qu'est-ce qu'il dit? Et lorsqu'il l'a trouvé, il la met avec joie sur ses épaules et de retour à la maison, il appelle ses amis et dit, « Réjouissez-vous avec moi car j'ai trouvé ma brebis qui était... » OK. Comment cette histoire répond-elle aux accusations des leaders religieux? Pourquoi Jésus choisissait-il de se tenir avec ces gens-là? OK, donc, il y a un parallèle, c'est ça, la parabole, un point central de comparaison. La brebis est perdue, ces gens-là sont perdus. La brebis est
en danger,
ces gens-là sont. La brebis, elle est
précieuse,
ces gens-là sont. Ça vaut la peine d'aller les chercher. D'aller les chercher. Même si ils sont publiquement, ouvertement en train de pécher de façon flagrante. OK? À quoi Jésus regardait-il? À quoi les pharisiens regardaient-ils? Au comportement, à l'apparence, oui. À quoi Jésus regardait-il? Au cœur. On va prendre une autre parabole dans Marc 5. Marc 5, l'Évangile de Marc. Marc 5, 1 à 15. Y a-t-il quelqu'un qui aimerait lire ça? OK, vas-y. Marc 5, 1 à 15, oui.
Alors, ça a commencé par le vin auprès de Jésus.
Non?
Marc 5.
Chapitre 5. Oups, attends.
C'est ça, à partir du verset 1, là, ici. Là.
OK, c'est good.
OK.
Ils arrivèrent à l'autre bord de la mer, dans le pays des Gadaréniens. Aussitôt que Jésus fut hors de la barque, il vint au-devant de lui un homme sortant des sépulcres et possédé d'un esprit impur. Cet homme avait sa demeure dans les sépulcres et personne ne pouvait plus le lier, même avec une chaîne, car souvent il avait eu les fers aux pieds et avait été lié de chaînes, mais il avait rompu les chaînes et brisé les fers, et personne n'avait la force de le dompter. Il était sans cesse, nuit et jour, dans les sépulcres et sur les montagnes, criant et se meurtrissant avec des pierres. Ayant vu Jésus au loin, il accourut, se prosterna devant lui. Il s'écria d'une voix forte, « Qu'y a-t-il entre moi et toi, Jésus, Fils du Très-Haut? Je t'en conjure, au nom de Dieu, ne me tourmente pas. » Car Jésus lui disait, « Sors de cet homme, esprit impur. » Il lui demanda, « Quel est ton nom? Légion est mon nom, lui répondit-il, car nous sommes plusieurs. » Et il le priait instamment de ne pas les envoyer hors du pays. Il y avait là, vers la montagne, un grand troupeau de pourceaux qui paissaient. Et les démons le prièrent, disant, « Envoie-nous dans ces pourceaux, afin que nous entrions en eux. » Et il le leur mit. Et les esprits impurs sortirent, entrèrent dans les pourceaux, et le troupeau se précipita des pentes escaladées.
Oui, mais c'est rouge. C'est bon. D'accord. OK. C'est bon. Merci, Jonathan. OK. Donc, la situation est la suivante. Jésus arrive dans à l'autre côté du lac de Galilée. Et puis, aussitôt débarqué du bateau, il arrive un homme en accourant. Qui est cet homme? C'est un homme qui est possédé de démons. OK. Et puis, on a pris connaissance de l'histoire. Après avoir pris connaissance de l'état de cet homme, quelle aurait été ta première réaction à toi si tu avais eu à le croiser quelque part? Je pense que tout le monde aurait eu la même réaction. Tu l'as dit, c'est épeurant, un homme démoniaque, n'importe quel démoniaque. Il a plusieurs démons en lui. Légion, ça veut dire une légion dans l'armée romaine, c'était 12 000 hommes, je pense. Ouais. En tout cas, c'est pas s'il y en avait 12 000, mais il y en avait plusieurs, là. Puis, on aurait, pense, tous eu la même réaction. Avant la rencontre avec Jésus, comment les gens de la région avaient réagi à cet homme? Dans ce qu'on a lu. De quelle façon ont-ils agi à son égard? Ils l'ont exclu. OK. Et leur focus était sur quoi, selon toi, les gens de la place? Ben, je pense que oui, hein? Qu'est-ce qu'ils avaient essayé de faire? L'enchaîner, mettre des fers, c'est un danger public, là. OK?
Moi, je pense que la solution, ça aurait été de dépenser son énergie. Moi, je l'aurais invité
au... T'aurais peut-être pas aimé la façon qu'il faisait le gym, toi. Il aurait peut-être tout cassé, les équipements. Qu'est-ce qui vous frappe de la réaction de Jésus?
C'est son calme.
C'est-à-dire, imagine-toi, là, mets-toi dans la peau d'un des disciples à côté de Jésus. Et cet homme-là, là, ce phénomène-là arrive là, en courant, là, en probablement en hurlant puis en criant. Il est probablement tout nu ou en tout cas pas grand-chose. Puis plein de marques de sang, des cheveux en l'air. Imagine-toi, là, ça vient courir vers toi, cette affaire-là. Puis là, tu étais à côté de Jésus. Et Jésus garde son calme. Wow! Jésus garde son calme. Lors du premier contact avec Jésus, qui parle à travers l'homme? C'est les démons. C'est les démons qui parlent. C'est pas l'homme qui parle, là. Ce sont les démons. Et Jésus, lui, qu'est-ce qu'il fait? Pardon? Il leur donne aux esprits de sortir de cet homme.
Il écoute avant.
Et il accueille. Il ne part pas comme nous en courant ou en essayant de se battre avec ou en essayant de se défendre. Il accueille. Il accueille cet homme-là. OK. Au verset 15, nous voyons un homme complètement différent. À la fin de l'histoire, là, il est habillé, il est saint d'esprit, et il est assis. Puis d'autres évangiles nous disent qu'il est assis aux pieds de Jésus. Assis, habillé, saint d'esprit. Penses-tu qu'au départ, il t'aurait été facile de l'imaginer comme ça? Et Jésus, comment voyait-il cet homme alors qu'il était encore possédé de démons et dangereux? Il l'a vu comme ça. Il l'a vu comme ça, n'est-ce pas? Mais dans toute cette histoire-là, on a vu que notre première réaction, ça aurait été quoi? La peur. Hein? Puis Jésus, lui, est-ce qu'il a eu peur? Qu'est-ce que la peur aurait fait chez toi et moi? Ça paralyse. Nous éloigne. Est-ce qu'on aurait été en mesure d'exercer quelque amour ou accueil envers cet homme-là? Non. Pourtant, Jésus le fait. Wow! Non, il n'était pas beau à boire. Il devait puer en plus. Mais imaginez-vous le cœur de Jésus. À quoi Jésus regardait encore une fois? Nous, on voit cet homme-là, mettons, si on est un des disciples, là, on voit cet homme-là arriver. Là. On ne sait pas tout ce qu'il y a eu en arrière. Comment? Il n'est pas né là-dedans. Là. Il n'est pas né dans les tombeaux, dans les cimetières, en train de hurler puis de se graffiner avec des pierres. Hein? Qu'est-ce qui est arrivé à cet homme-là? Comment il s'est ramassé là? Fait que souvent, nous, quand on regarde quelqu'un, on regarde comme il est là, on oublie là. Il y a peut-être un cheminement qui l'a conduit là. Hein? On regarde un autre passage encore. Marc 10. On tourne dans Marc 10. Marc 10, 13 à 16. Plus court cette fois-ci. Marc 10, 13 à 16. On lui amena des petits-enfants afin qu'il les touche. Une autre version dit qu'on les bénisse, que Jésus, il voulait que les parents voulaient que Jésus bénisse les enfants, qu'il pose les mains sur eux. Mais les disciples leur firent des reproches aux gens qui faisaient ça, aux parents. Jésus le vit et s'en indigna. Laissez donc les petits-enfants venir à moi. Ne les en empêchez pas, car le royaume de Dieu appartient à ceux qui le ressemblent. Vraiment, je vous l'assure, celui qui ne reçoit pas le royaume de Dieu comme un petit enfant n'y entrera pas. Là-dessus, il prit les enfants dans ses bras, posa les mains sur eux et les bénit. Donc, pourquoi, selon toi, les disciples de Jésus ont fait des reproches aux parents des enfants qui amenaient leurs enfants à lui pour qu'il les bénisse? Pourquoi les disciples ont fait des reproches? Faites pas ça, rien. C'est une distraction, OK? Vous êtes en train de distraire le maître, là. OK? Il y a d'autres choses de plus importantes à faire que ça, là. OK, alors, qu'est-ce qui fait que les disciples réagissent de même? Vous venez de trouver le nœud du problème, là. Oui, Ngoran. Même pas comptabilisé. Donc, c'est quoi que leur attitude reflète envers les enfants? Pas important. Pas important. Vous êtes en train de distraire, vous êtes en train de déranger Jésus. Jésus, c'est un homme important. Jésus, là, il a un ministère important à exercer. Hein? Il n'y a pas de temps à perdre avec vos niaiseries. Donc, ça reflète une attitude de mépris, envers les enfants. Ils ne sont pas importants. Mais comment Jésus, lui, réagit-il à l'attitude et aux actions de ses disciples? Il en est indigné. Il n'est pas juste, hey, les gars, vous ne devriez pas faire ça. Jésus est fâché, là. Jésus, il est indigné. Oui, Marc-André?
Ben, moi, j'ai étudié en histoire là, avant le droit.
Oui.
Puis, je me rappelle, à un moment donné, j'avais pris un cours, c'était l'histoire de l'Europe là, à l'époque moderne. L'époque moderne, c'est 1600-1700.
OK.
Puis les enfants, c'est vraiment considéré autrement. Là.
Oui.
Puis, les autres, là, ils les mettaient dans des espèces de sacs toute la journée, puis ils allaient travailler, tu sais, puis ils laissaient des...
OK.
Des espèces de langes.
Oui. Ouais.
Qui
ouais.
T'es considéré comme étant un être humain, là, t'es quasiment rendu à 5 ans.
Ouais. Merci, Marc-André. Exact. Donc, mais Jésus, lui, bien avant ça, comment réagit-il? Il est indigné. Et qu'est-ce que ça communique sur le cœur de Jésus? Comment voit-il les enfants? Ils sont précieux pour lui. Donc, trois histoires différentes avec des différentes personnes. La première avec des gens, des escrocs, des criminels, si on veut, reconnus. La deuxième, un homme démoniaque. Le troisième, des enfants. Et les trois, dans les trois récits, on voit que Jésus, ici l'image le représente Jésus, Jésus, lui, rencontre quelqu'un. Et cette personne-là, vous conviendrez que mon dessin, là, il est pas très beau, hein? C'est peut-être le démoniaque. C'est pas très beau. C'est pas très beau. Mais Jésus, il regarde quoi? À la personne? Non, il regarde au cœur. Il passe par-dessus l'apparence extérieure, par-dessus le comportement extérieur, par-dessus la position sociale, un enfant. Il regarde au cœur. Et il accueille. C'est ce qu'il fait, il accueille. Des gens qui, normalement, nous les êtres humains, on aurait de la difficulté à accueillir ou on n'accueillerait pas là. Quelle attitude, moi, j'ai envers ces catégories-là de personnes-là. Qu'est-ce que mes réactions démontrent sur ma façon de voir versus la façon de Jésus à regarder? Jésus regarde à la personne derrière l'apparence, derrière le comportement, derrière la réputation, et cette personne-là a une valeur à ses yeux. C'est une créature précieuse de Dieu. Et son papa désire l'adopter dans sa famille. C'est merveilleux parce que là, on a espoir. On a de l'espoir. La personne est là, mais elle ne peut pas rester là. Jésus veut l'accueillir. Mais qu'est-ce qui m'empêche, moi, à être comme Jésus? Ça, c'est moi. Ça, c'est la personne. Et souvent, j'ai une muraille de protection autour de moi. Parce que moi, dans ma vie, j'ai été blessé par des gens méchants, j'ai été blessé par des gens abusifs, j'ai été blessé par des escrocs, des gens qui ne me disaient pas la vérité, j'ai été blessé par de toutes sortes de façons, et là, dans mon cœur, j'érige des murs, des protections. Mais qu'est-ce que ce mur-là fait? C'est que je ne suis pas capable de faire comme Jésus et regarder par-dessus le comportement, par-dessus l'apparence, par-dessus la réputation, par-dessus l'état social. Parce que je me protège. J'ai peur. Voilà.
J'ai pas été blessé, excepté que j'ai pas le goût d'aider quelqu'un parce que ça va me demander.
Oui, effectivement.
Effectivement,
ça peut être juste parce que je suis trop égoïste,
ben oui.
Trop centré sur moi-même. On va regarder un autre passage, un dernier passage dans Matthieu 25. Matthieu 25. Matthieu 25, 35 à 40. Donc, pour vous mettre dans le contexte ici, au verset 31, Jésus est en train d'expliquer à ses disciples le jugement final. Okay? Et il dit au verset 31, « Quand le Fils de l'homme, c'est lui, c'est Jésus, viendra dans sa gloire, quand il va revenir comme roi avec tous ses anges, il prendra place sur son trône et tous les peuples de la terre seront rassemblés devant lui. » Fait qu'il parle du dernier jugement. Il placera les brebis à sa droite, les boucs à sa gauche, et après ça, il va dire aux brebis, « Venez, verset 34, venez, prenez possession du royaume qui a été préparé pour vous, car j'ai souffert de faim, m'avez donné à manger, verset 35. J'ai eu soif, m'avez donné à boire. J'étais un étranger, vous m'avez accueilli chez vous. J'étais nu, vous m'avez donné des vêtements. J'étais malade, vous m'avez soigné. J'étais en prison, vous êtes venu à moi. » Alors les justes, les brebis, lui demanderont, « Mais Seigneur, quand t'avons-nous vu avoir faim et t'avons-nous donné à manger, ou avoir soif et t'avons-nous donné à boire, ou étranger, t'avons-nous accueilli, ou nu, ou t'avons-nous vêtu, ou malade, ou prisonnier, et sommes-nous venus te rendre visite? » Et le roi leur répondra, « Vraiment, je vous l'assure, chaque fois que vous avez fait cela au moindre de mes frères que voici, c'est à moi-même que vous l'avez fait. » Dans ce passage, Jésus, il est question, entre autres, là, d'accueillir. Hein? Vous avez vu ça? D'accueillir. Et qu'est-ce que Jésus dit à ceux qui ont accueilli des étrangers? Des étrangers qui étaient ses brebis à lui, ses enfants à lui. Il dit, vous l'avez fait à moi. À moi. Jésus calcule ce geste comme étant avoir été exercé envers lui-même. Donc, là, ça vient ajouter un autre élément encore à tout ce qu'on a vu ensemble. Ce qu'on a vu à date, en bref, là, en résumé, c'est quoi? C'est que Jésus regarde au cœur. Il regarde à la préciosité de la personne et il veut l'accueillir. Il veut l'accueillir. Mais ici, il donne un autre élément, cette déclaration que si vous l'avez faite au moindre de mes brebis, c'est à moi que vous l'avez faite, là. Ça vient rajouter un autre élément, n'est-ce pas? C'est que là, je suis devant une nouvelle pensée, que ce que je regarde, ce n'est pas juste le cœur de la personne, mais que je considère que la façon dont je vais la traiter, si c'est un enfant de Dieu, c'est que je traite Jésus comme ça. Donc, si on prend l'image encore, me voici, te voici, un petit bonhomme. Là, il arrive quelqu'un, mais là, c'est un frère, c'est une sœur dans l'Église. C'est quelqu'un qui appartient à Jésus, mais qui n'est pas aimable. Ça existe-tu? Il y en a-tu de ça? Des fois, je ne suis pas aimable. Hein? Ça peut arriver. Donc, qu'est-ce que Jésus est en train de nous dire ici, là? C'est que ce n'est pas juste de faire comme lui, puis de regarder au cœur et d'agir comme lui l'a fait, parce que c'est ce qu'il a fait et ce qu'il veut. Mais ce n'est pas juste ça. C'est qu'il en rajoute, là. Il dit, moi aussi, je suis dans cette personne-là, et la façon que tu vas la traiter, c'est la façon que tu me traites moi. Oh là là! Oh là là! Ça veut dire que la façon que je traite mon frère, là, Jésus considère que c'est la façon que je traite lui, Jésus. Oh! Je vais avoir les yeux plus grands ouverts, là. Ça change la donne. Ça change vraiment la donne. Donc, quel impact cette déclaration du Seigneur Jésus a-t-elle sur les décisions de tous les jours? Et quelle influence même sur l'orientation de ta vie? Certains ont déjà entendu l'histoire, je vais vous la raconter brièvement. Quand j'étais au cégep, quand j'étais étudiant, j'avais eu un emploi comme préposé aux bénéficiaires dans un grand hôpital à Montréal. C'était 900 lits, énorme. C'est tous des vétérans de la guerre, des guerres 1 et 2 là, mondiales, surtout 2. Puis, notre travail, c'était, bon, les nourrir, les laver, les coucher, les tourner. Puis, il y avait des cas lourds, il y avait des cas moins lourds, mais c'était exigeant, là. Puis, moi, j'étais de soir. De soir, on était 2 préposés pour 35 patients. Ben, ça veut dire qu'on courait, là. On courait de 3h30 à 11h30 le soir, donner le souper, nettoyer, coucher. Après ça, répondre aux sonnettes. Et à un moment donné, quand j'ai commencé, je trouvais que les gens étaient rudes avec les patients. Le repas, ils mélangeaient tout ça là, ensemble, puis c'était le plus vite possible, puis c'était vraiment dégueulasse, là. J'ai dit, jamais je vais faire ça. Les transferts, c'était enroué, garoche dans le lit, puis même, il y en avait qui s'assoyaient au poste à partir de 7 heures, ils ne se levaient plus là. Même s'il y avait des sonnettes là, ils ne se levaient plus. Non. Moi, j'essaie d'y aller. Non, tu vas les gâter. C'était affreux. Puis j'ai dit, c'est vraiment de la maltraitance, puis moi, je ne ferai jamais ça. Le premier été, ça a bien été. Deuxième été, bien été. Troisième été, j'ai réalisé que je m'en venais endurci. Je m'en venais endurci, que je faisais des choses un peu comme les autres, que je m'étais dit, jamais je vais faire ça. Je me pensais différent, mais je ne l'étais pas différent. Et quand j'ai réalisé ça, j'étais en train de lire la Bible, et je suis venu sur ce passage-là, et le Seigneur a dit que la façon de traiter la personne, si c'est un enfant de Dieu, on ne sait pas, mais peut-être que oui, peut-être que non, je ne sais pas. Mais la façon que je le traite, c'est comme je traitais Jésus. Hop-a-l'œil! Ouh, ça change la donne, comme dit Alain. Là, je ne peux plus agir envers cette personne-là comme envers juste cette personne-là, parce que c'est comme si c'était Jésus. Voyez-vous? Pour nous, en tant qu'enfants de Dieu, c'est à ce niveau-là d'accueil que Jésus nous appelle, de se traiter comme si c'était lui. Donc, est-ce que je suis accueillant dans ma personne envers les gens? Des questions à réflexion, OK? Est-ce que je suis accueillant? Les gens diraient que je suis une personne accueillante dans ma personne envers les gens? Ou est-ce que je suis trop préoccupé par mes affaires, trop égoïste ou trop en protection? Quelle est ma première réaction lorsqu'un itinérant ou une personne d'une autre culture vient s'asseoir à côté de moi? Est-ce que je suis content? Est-ce que je suis inconfortable? Est-ce que j'ouvre une conversation et je m'intéresse à elle ou je me renferme sur moi-même? Quelle est ma réaction envers les différentes catégories, comme on a vu dans l'histoire de Jésus, envers les gens qui ont des pratiques contre la parole de Dieu, des comportements ouverts, les drogués, les alcooliques? Quelle est ma réaction envers les homosexuels, envers les ados? Il y en a qui ont vraiment... Vraiment dedans contre les ados, là. Comment je réagis lorsque je vois un pousseux sur le bord de la route? Est-ce que je tombe dans les jugements, dans le mépris? Quelle est mon attitude lorsque je rencontre des Autochtones à l'épicerie? Ai-je envie de leur parler ou de les éviter? Est-ce que je serais disposé à laisser quelqu'un qui est dans le besoin coucher chez moi? Oh! Là, ça devient pratique, là.
Il y a quelques années, on a écouté une série, c'est un homme, The Kindness Diaries, le journal de la bienveillance. Et lui, il voulait prouver que les êtres humains peuvent être gentils. Il est parti de l'Alaska en petite Volkswagen coccinelle, là, jaune. Il est descendu tout le long jusqu'au bout de l'Amérique du Sud en disant aux gens, je fais un voyage, puis à chaque ville ou village qui rentrait, je fais un voyage, puis j'ai pas d'argent, mais est-ce que je pourrais aller coucher chez vous ce soir? Ou est-ce que vous connaîtriez une place où je pourrais aller coucher? Est-ce que je peux aller coucher chez vous? C'est fascinant. Je vous le recommande vraiment, là. Et on a droit à toutes les réactions. C'est sur Netflix. Le journal The Kindness Diaries, le journal de la bienveillance, je pense. Et de voir que certaines personnes vont dire, « Ben oui, tu peux venir coucher chez nous. » Mais est-ce que tu serais de ces personnes-là? Puis souvent après, ben, il leur disait, « Ben moi, je tourne une émission, je fais de l'argent avec cette émission-là. » Puis en parlant avec la personne a dévoilé ses rêves. Puis il dit, « Moi, je vous signe un chèque. » pour aller réaliser vos rêves. Mais ils ne savaient pas au début, là. Ils ne savaient pas au début. Mais est-ce que je serais disposé à laisser coucher quelqu'un chez moi? Est-ce que je prie pour avoir des occasions à démontrer l'accueil comme Jésus? Y a-t-il des limites à l'accueil de Dieu? Pour terminer. C'est ça exactement. Dieu invite tout le monde. Là. C'est seulement ceux qui refusent à qui Dieu va dire, retirez-vous de moi un jour. Dans le passage de Matthieu 25, si vous continuez de lire, là il se tourne vers les boucs, il dit, retirez-vous de moi. Ouh, plus d'accueil, là. C'est terminé. Il y a des limites à l'accueil de Dieu. La limite, c'est quoi? C'est le refus de venir. C'est le refus de venir. Exactement. D'accepter l'invitation. Il dit, vous m'avez vu, nu, mais pas vécu. Vous m'avez vu en prison, mais vous n'êtes pas venu me chercher, me visiter, etc., etc. Mais ils ont dit, quand est-ce qu'on t'a vu, Jésus? Ben, il dit, en autant que vous ne l'avez pas fait à un de ces brebis, à moi, vous ne l'avez pas fait à moi. Puis il dit, retirez-vous de moi dans les ténèbres lointaines pour l'éternité. C'est grave. C'est grave, c'est sérieux. Mais au prime abord, le message de Dieu, c'est que j'ai toujours la main tendue. Toujours, toujours. Mais il y a un jour où est-ce que ça va prendre fin. Il ne faut pas arriver là. Il ne faut pas attendre là. Il faut accepter l'invitation de Dieu. Oui, Marc-André. Oui.
C'est sûr que tout dépendamment de ta constitution physique, comment est-ce que t'es pas trop heureux. Mais je me rappelle, quand j'étudiais, j'étais dans une chambre, là, on avait vu le gars, il commence à se parler à lui-même, tu sais, il disait des choses assez. Mm-hmm. C'était un petit peu comme lui, là, avec la face rouge.
Ouais. OK.
Puis là, même si j'avais parlé, là, même si j'avais essayé de le calmer, là, il y aurait rien eu à faire.
Mm-hmm. C'est pas une fois la police. Non, ça, c'est bien correct, ça. C'est bien correct. Oui. Il y a des moments où ce qu'il faut se retirer, il faut se protéger, c'est vrai. Mais ce qu'on est en train de regarder, c'est le cœur. Hein? Le cœur, l'attitude. L'attitude, c'est quoi la première réaction? Et c'est quoi à quoi on regarde? On regarde premièrement au comportement, à l'état, etc., ou on regarde au cœur? OK. J'aimerais qu'on prenne un temps d'adoration pour bénir Dieu pour son grand accueil, bénir pour son fils Jésus.
si peut-être deux ou trois personnes pourraient adorer. Et peut-être que aussi, face à ce qu'on a vu, ben il y a quelque chose là. Tu vois qu'il y a un écart dans ton cœur. Je pense qu'on peut tous dire ça, là, dans le fond. Il y a un écart entre la façon d'agir à Jésus et ma façon à moi. Soit que égoïste ou protection, il y a un écart, là. Donc, ça devrait nous amener à confesser, à demander pardon. Fait que deux choses, adoration, pour qui est Dieu, pour qui est Jésus, et confession. Et après ça, on va terminer avec un petit mot de la fin, là.
Thank you.